101.5 FM. Imaginaire, c'est le rendez-vous incontournable pour les amoureux et amoureuses de la pop culture. Un mardi sur deux à 21h, on parle littérature populaire, mais aussi jeux, ciné, séries, avec des chroniques, des interviews, sans oublier les invités et l'actualité. Imaginaire, c'est un mardi sur deux à 21h sur Radio G 101.5.
Sur le 101.5. Cette émission est enregistrée car tous les membres de l'association sont partis racketter leurs voisins pour avoir des bonbons. Au programme donc, Jean-Hugues a beaucoup vu et a beaucoup lu. Ensuite, Karine nous parlera du dernier Michael Rock. Et puis Pierre-Marie nous fera une présentation des Utopiales, le grand raout de la science-fiction francophone qui se tient à Nantes du 1er au 5 novembre. En deuxième partie de l'émission, nous écouterons un extrait de la table ronde enregistré au 4 le 13 octobre, animé par Pierre-Marie sur le thème du corps dans les littératures de l'imaginaire. Elle réunissait la doctorante Céline Grégu et les autrices Claire Garand et Audrey Plenet, qui recevront d'ailleurs un prix aux Utopiales samedi prochain. Quant à moi, je vous ai préparé une petite playlist spéciale Halloween et on commence tout de suite avec See You See and the Banshees.
I'm Félicitations, Edgy, c'est un calamar.
Chers auditeurs, chers condisciples, ma chérie, bonsoir. Je suis un peu stressé en ce moment, du coup, j'ai vu une série de films pour me détendre. Alors j'espère pouvoir vous dire bientôt pourquoi je suis stressé. Bon, ça a rapport avec des livres, quelle surprise. Alors, les films pour me détendre, donc on va dire des films d'action. Alors, dans le désordre, j'ai vu Mec 2. Oui, je sais, mais je suis traumatisé depuis que j'ai vu à sa sortie Les Dents de la Mer avec mon cousin Didier qui m'avait dit que c'était un documentaire. J'avais 16 ans. Alors, c'est rigolo, ça s'appelle On nous trouble. Et puis, il y a Statham. Bon, j'ai vu aussi John Wick épisode 4, c'est très sympa aussi. Et sans grande surprise, et puis il y a Keanu Reeves, ça a l'air de clore la quadrilogie. Alors, j'ai vu aussi The Predator. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des Predators, des Aliens, tout ça. Ça m'a bien détendu aussi. Vous saviez, vous, qu'il y avait des Predators qui bon, poursuivaient d'autres? Et puis, Monster Hunter. Alors, c'est un groupe de mercenaires qui passe par une porte dimensionnelle où se trouvent des monstres énormes. Bon, et puis, il y a Mila Jovovich. J'ai vu aussi Non-Stop. Ouais, je sais, j'étais vraiment stressé. Alors, c'est un bon thriller bien efficace qui met en scène un marshal qui protège un avion de ligne et ça le met dans une situation très, très embarrassante, mais pas de panique, happy end. Et puis, il y a Liam Neeson. Et puis, j'ai vu ce que je trouve être une petite perle, Free Guy. Alors, Guy est interprété par Ryan Reynolds. Il est banquier. Tous les matins, il se lève, il est en pleine forme pour aller au boulot et il a un rituel immuable. Petit déjeuner, il se lave les dents, machin, tout ça. Bon. Et sur le chemin du boulot, il peut y avoir des attaques de super-héros, des bolides qui roulent dans les rues de la ville à 200 km/h, des hommes armés qui tirent sur tout ce qui bouge, etc. La banque où il travaille est régulièrement attaquée par des gangs. Alors, très très rapidement, on comprend que Guy est un personnage non-joueur dans un jeu vidéo et que, quoi qu'il arrive, le lendemain matin, il se réveille pour son rituel anté-boulot. Alors, il y a un événement, heureusement, qui va lui faire prendre conscience de son état, ce qui va bien entendu le déprimer, avant un sursaut de rébellion. Alors, c'est une très jolie fable, bien en phase avec tout ce qu'on peut entendre sur les IA aujourd'hui, dont énormément de bêtises, et c'est bien entendu plein d'actions et de scènes apocalyptiques, il ne faut donc pas rater ça. Alors, j'ai vu aussi des séries. Alors, j'étais un peu passé à côté de The Boys, une série de super-héros complètement maîtrisée par des capitalistes d'un point de vue marketing. Alors, j'ai regardé la saison 1, il y a quelques scènes choc de très bon augure, mais le tout est à mon goût un petit peu mou du slip. Alors, je vais quand même tenter la 2. Et puis, j'ai vu Good Omens, saison 2, inspirée de l'œuvre de Terry Pratchett et Noël Gaiman, rien que ça, avec David Tennant dans le rôle du démon. Alors, c'est un petit bijou finement ciselé. Alors, Gabriel l'archange, oui, c'est l'archange, vous savez, l'archange Gabriel, se balade dans une rue de Londres. Il est totalement nu et il porte un carton vide. Alors, ce qui permet que la série ne soit interdite qu'au moins de 13 ans et pas 16. Parce que montrer un zizi, non mais quelle horreur. Alors que des fesses, ça va. Il se rend dans la librairie d'Aziraphale, interprétée par Michael Sheen, l'ange qui, avec le démon Rampa, interprété par Tenom, suivi un petit peu aussi, a sauvé la Terre dans la saison 1. Alors Gabriel est totalement amnésique et il est recherché activement par l'enfer et le paradis. Rampa va donner un coup de main à Aziraphale alors qu'il déteste Gabriel. C'est plein d'humour, les personnages sont merveilleux, bref, j'ai dit un bijou finement ciselé. Et puis j'ai regardé deux séries françaises. Alors j'ai regardé les 3 saisons de Lupin avec Omar Sy, bon, ne boudons pas notre plaisir. Outre les arnaques lupinesques finement montées, on a le droit aux histoires de famille qui trénouillent un peu, mais c'est globalement sympa. Et puis j'ai regardé avec intérêt Killer Coaster, une série qui se passe dans le milieu des forains, avec Audrey Lamy, Alexandra Lamy et la charmante Chloé Joannet, la fille d'Alexandra Lamy. Et en fait, c'est du fait d'une interview d'Étroit sur France Inter qui m'a donné envie de voir la série, qui se passe dans le milieu des forains, et ce n'est pas simple. Alexandra Lamy interprète une contractuelle de Palavas-les-Flots, où se passe la série, qui, se prenant pour un agent de la CIA, va infiltrer le milieu des forains pour tenter de résoudre un meurtre dans le train fantôme. Conflit entre familles de forains, intérêts capitalistiques, policiers hallucinés, meurtre en série, comédie, humanisme, plein de bonnes choses pour cette série qui devrait voir une saison 2, parce que ça finit quand même sur un méchant cliffhanger. C'est quand même sympa. Une bonne série française avec une distribution étincelante. Et puis, j'ai lu des livres. Ah, je résiste pas à une très jolie coïncidence, parce que je viens de finir deux romans dont les héroïnes bénéficient d'un look gothique, en plus d'une extrême sensibilité, et sont dotées de parents pour le moins différents. Alors, le premier, c'est « Celle qui parle aux morts » de A.K. Turner. La traduction est de Claire Breton, c'est sorti chez Alibi, ça coûte 22 balles. Cassie Raven, notre première héroïne, gothique par ses piercings, ses tatouages, sa passion pour la taxidermie, travaille à la morgue de Camden. Particulièrement douée, elle est capable de voir des éléments qui peuvent échapper au médecin légiste, ce qui n'est pas sans créer des conflits. Mieux, souvent seule avec ses patients, elle leur parle et parfois il lui semblerait qu'ils lui répondent. Elle a un contact dans la police qui, elle aussi, a ses particularités personnelles et qui, par suite d'une aventure précédente, la première, semble avoir tissé avec Cassie des liens ambigus. La lieutenante Phyllida Fleet est une beauté glaciale qui ne laisse pas indifférent notre Cassie. D'origine polonaise, Cassie a pour seule famille sa grand-mère, sa babka, qui lui expliquait depuis sa jeunesse que ses parents étaient décédés dans un accident de voiture. C'est un mensonge éhonté que va découvrir de manière stupéfiante Cassie. Le fait de se trouver prise dans une enquête concernant sa propre famille rend le roman un peu fleur bleue. Mais bien fanée, la fleur bleue, si tu vois ce que je veux dire. Alors suffisamment pour se laisser entraîner avec l'héroïne dans un maelstrom de sentiments contradictoires, jusqu'à une révélation finale étonnante. Alors de manière secondaire, nous voyons Cassie travailler sur un cas particulièrement intéressant qui va révéler sa pugnacité et sa lucidité, ainsi que de permettre de constater que A.K. Turner connaît bien son sujet et nous y intéresse avec passion. L'écriture est fluide, sans chichi, un peu technique par moment, mais de manière positive. Le deuxième roman est « Mon cœur est une tronçonneuse » de Stephen Graham Jones, traduction de Fabienne Duvigneau, chez Rivage Noir. Ça coûte 24 balles. Jad Daniels est notre seconde héroïne. Alors, elle est gothique par ses maquillages et coiffures chaotiques, ayant tenté de se suicider à diverses reprises. Jeanne, qui a 17 ans, est une immense fan de films d'horreur, et plus précisément de slasher, les films où une personne en assassine d'autres à l'aide d'armes blanches, dans des circonstances horrifiques. Alors, elle a la particularité de connaître tous les films du genre par cœur, et nous en explique les codes, à travers de dissertations qu'elle a envoyées à son professeur d'histoire, M. Holmes. En résumé, un slasher ne tue pas sans raison, même si celles-ci sont un petit peu hermétiques aux témoins de l'histoire, et finit par se faire tuer par la fille finale. Par exemple, Jamie Lee Curtis dans Halloween. Tout est superbement réglé et Jade connaît la partition et les détails par cœur. Elle a un papa amérindien, alcoolique, la mère est absente, elle est transparente au lycée. Elle ne vit qu'au travers de sa passion dans son bled bordé d'un lac, où de riches citadins ont décidé de construire de superbes maisons légalement dans la rive opposée, dans un parc naturel. Quand un couple de jeunes touristes hollandais décède mystérieusement lors d'un bain de minuit dans le lac. Puis, les morts se succèdent, éveillant l'attention de Jade qui reconnaît bien les méthodes de ces slashers. Elle a même repéré la fille finale, celle d'un riche propriétaire qui s'installe en ce moment même. Elle décide donc de l'aider, mais son comportement éveille quelques soupçons. Une très jolie héroïne, totalement décalée, mais dont le comportement rebelle et la vive intelligence sont très séduisants. Même si le roman souffre parfois d'une continuité répétitive, l'immersion est bien présente et la sémantique est bien adaptée à son personnage. Tout comme dans ce genre de film, les touches d'humour au bon moment ne sont pas absentes. Bien du plaisir donc à ne pas bouder. Et fan de slasher, vous y retrouverez votre compte et j'avais bien entendu penser à Julien Calderoni et Article Unbuckant.
Je vais vous présenter Les choses immobiles de Michael Roch aux éditions de Nemos. Michael Roch dépeint une île, celle de la Martinique, nous proposant une anticipation de la société dans quelques années. L'histoire commence avec le décès du père de Charles qui va retourner sur cette île et retrouver son frère Apollon. Tout va changer. Lui, son frère, la Martinique. Entre dérèglement climatique, climat politique où siège un gouvernement silencieux face à ses dégâts, le peuple en rage et se mobilise. Charles est donc immergé dans une société en souffrance. Il va être embarqué sur les traces de son frère, le suivant dans ses actes militants pour l'indépendance de la Martinique sans vraiment en comprendre les enjeux. Le personnage de Charles est central. On apprend qu'il a peu vécu sur cette île, il ne comprend pas le créole, il n'a donc aucun repère. Mais en plus de ça, il est confronté à ses propres démons, ses désirs pour la femme de son frère, ses blessures, ses doutes et l'apparition d'une anguille noire qu'il poursuit. Une touche fantastique qui se rajoute à l'horreur des événements du passé et du présent. Il entreprend une profonde quête identitaire sous des tensions de plus en plus fortes. Ce roman peut déstabiliser dans un premier temps, avec l'utilisation de paragraphes courts qui apparaissent comme décousus, mais au fil des pages, on comprend ce choix de style et on l'adopte. Car il sert au récit faisant écho au psychisme de Charles et à la situation politique et économique de la Martinique. L'auteur explore donc l'intime de bien des façons, il nous touche profondément, il ouvre des portes vers la liberté et interroge en nous mettant face à la violence du colonialisme, en dénonçant le sexisme, l'homophobie, le fascisme. Sa plume est incisive, orale et envoûtante. Michael Roch est un auteur né à Lyon et originaire des Antilles. Depuis la publication en 2017 de son roman « Moi, Peter Pan », il apparaît comme une révélation de la littérature. Par ailleurs, il mène plusieurs ateliers d'écriture autour du thème de l'afrofuturisme. Il est aussi le créateur et réalisateur de la chaîne YouTube « La Brigade du Livre ». Je vous invite donc à le suivre de très près et à découvrir ses romans, tous plus originaux que les autres, qui se ressemblent sur un point, celui de l'engagement qu'il souligne dans chacun de ses écrits. Je vous laisse avec un groupe de rock metal d'outre-mer fondé en 2014, dont je vais potentiellement écorcher à la fois le nom du groupe et le nom de la chanson, mais c'est pas grave. Donc il s'agit de Flying Bow Kids avec la chanson Oi sur Radio G.
passion. Papa fouillé en ife, papa fouillé en charbon. Jodi c'est pas tout fait qui nation, si qui t'y a ni ambition. Papa fouillé en ife, papa fouillé en charbon. Pas fait mes yeux poser aux questions. Pour qui nous carréter à plantation.
Longtemps que j'étais pas passé à la radio. Ce soir, c'est un moment un peu spécial parce que du coup, on va m'entendre beaucoup et je vais parler des Utopiales. Un peu plus tard dans l'émission, on aura le droit à une retranscription choisie de la table ronde qu'il s'est passée le 13 octobre dernier en compagnie de notamment Audrey Plenet, Claire Garand et Céline Crigu sur la représentation du corps dans les littératures de l'imaginaire. Et c'était une table ronde qui était un peu particulière parce qu'elle a été décidée à peu près au mois de mai-juin. Les invités avaient été décidés bien en amont et il s'avère que les deux autrices, donc Claire Garand et Audrey Plenet, ont été à la fois sélectionnées pour plusieurs prix utopiales, mais aussi récompensées, chacune avec un prix différent, puisque Claire Garand a reçu le prix Verlanger, qui est un prix de la Fondation de France qui récompense une œuvre de science-fiction dans les lignées de l'héritage de Julia Verlanger. Et puis le prix Utopial a été décerné à Rossignol de Audrey Plenet. Dans les deux cas, ce sont des prix qui sont pour un premier roman. Même si Claire Garand et Audrey Plenet ont eu des éditions qui relèvent plutôt de l'auto-édition ou de la vraie micro-édition, là ce sont vraiment des prix pour des premiers romans à grande ampleur. Et tous les deux avaient un rapport extrêmement intéressant à la science-fiction, à l'altruisme et à l'anticipation. Donc très très content de cette table ronde et puis de les retrouver aux Utopiales, puisque suite au Covid, il avait été décidé que les Utopiales annonçaient les lauréats des prix littéraires en amont, mais que la remise des prix se ferait toujours sur le moment des Utopiales, parce qu'il y a d'autres prix qui ne sont pas littéraires qui sont remis. On pense notamment au prix du scénario de jeu de rôle ou au prix cinématographique. Tout à fait.
Donc ce sera samedi prochain.
C'est samedi prochain, tout à fait. Mais il y a des tables rondes où elles sont présentes toutes les deux, ainsi que d'autres personnes, pour parler un petit peu des thèmes qui leur tiennent à cœur ou des thèmes sur lesquels on considère qu'elles ont des choses intéressantes à évoquer. Je le dis un petit peu là, c'est du spoiler sans en être. L'équipe imaginaire va être présente aux Utopiales comme chaque année. Je crois que ça va faire quasiment 10 ans qu'on fait toutes les éditions.
C'est possible, ouais.
Et qu'on ramène des interviews sur pour les émissions radio. Donc tout au long de l'année, on continue à faire vivre notre participation aux Utopiales au fur et à mesure des différentes émissions de l'année. Cette année, c'est sur la transmission. Le thème de l'année des Utopiales, c'est la transmission. Et je ne peux pas m'empêcher de vous citer la citation qu'ils ont mis en exergue sur ce thème-là, qui est une citation de Stephen White. Alors j'ai un très mauvais accent anglais comme d'habitude, je suis désolé. La citation en français. À ma mort, je souhaite léguer mon corps à la science-fiction. Stephen Wright. Cette question de la transmission, à la fois d'un point de vue scientifique, puisqu'on rappelle qu'il y a le commissariat à l'énergie atomique ainsi que le CNRS et l'INRA qui sont présents, et il y a cette question de transmission donc avec les ondes, avec les gènes, etc. Mais il y a aussi tout l'aspect sociologique. Depuis plusieurs années, on voit que ce qui faisait avant l'âme des utopiels, qui était la position des sciences dures et des sciences molles, donc des sciences physiques et chimiques aux côtés de la littérature, science-fiction, se teinte aussi beaucoup de sociologie. Et là, il est la question de la transmission. Qu'est-ce qui fait un corps, une ethnie, une civilisation? Qu'est-ce qu'on lègue aux générations suivantes? Avec, bien sûr, dans ce contexte, la crise climatique que nous pouvons avoir. Donc, ce sont des questions qui sont très intéressantes et qui vont être abordées sur plusieurs tables rondes. Notamment, il y a, par exemple, la Tabula Rasa, qui est une table ronde thématique de chaque édition, où la question, c'est: on fait table rase de ce qui se passe de l'humanité. Et on repart sur de nouvelles bases. C'est cette année, sur la table ronde Tabula Rasa, il y a Audrey Plenet qui intervient avec notamment si demain l'espèce humaine subissait quasiment un risque d'extinction et surtout une coupure mémorielle, qu'est-ce qu'on va léguer aux autres dans les objets? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver et dire de nous et de nos civilisations actuelles? C'est des questions qui sont très intéressantes et sur lesquelles il y a pas de réponse à apporter, mais uniquement des suppositions qui sont liées à ce que les latins appelaient l'innutritur. Ce qui nous a nourri, nous, c'est forcément ce qu'on voudrait laisser, soit en don, soit en absence, mais ce qui nous a nourri, ce qui nous a créé, c'est forcément ce qu'on va laisser derrière nous. Donc ce sont des choses qui sont très récentes, très intéressantes. Bon, bien sûr, les Utopiales, ça va être le plus gros salon d'imaginaire francophone.
Sur la SF,
dédié exclusivement à la SF, même s'ils font des petites entrées en fantastique et en fantasy, mais effectivement on reste sur la SF pure et dure à la base. Et on garde quand même, je crois que c'est 160 intervenants, toutes catégories confondues, qui sont présents, ce qui est déjà énorme. Il y a quasiment 200 animations table ronde qui sont prévues sur 4 jours. Alors,
c'est 4 jours et demi même, je dirais, parce qu'il y a le mercredi après-midi.
Alors non, c'est pas le mercredi après-midi, c'est le mercredi 18h. D'accord. Et c'est uniquement l'inauguration. Donc c'est pour ça qu'effectivement on compte qu'il y a 5 jours, mais il n'y a que 4 jours de réelle présence.
Ok, il y aura quand même la table ronde, enfin la présentation.
Le mot du président le mercredi soir.
Son premier cours en fait. Hein.
Exactement.
Et puis il y aura un spectacle avec Guillaume Meurice aussi
oui,
ce soir-là.
Tout à fait.
Et aussi une première séance de cinéma avec Interstellar, je crois.
Tout à fait. Le mercredi soir est un moment qui est assez important, qui est très demandé et qui est malheureusement trop demandé, puisque du fait des jauges, on est passé sur des réservations obligatoires.
Ah ouais.
Réservations gratuites, enfin gratuites. Si on admet le fait qu'il faut payer le billet d'entrée, ouais, ça reste gratuit. Mais oui, c'est sur réservation malheureusement. Et puis après, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec pas mal de personnes qui y vont, on va y retrouver pas mal de grands copains. Et puis des personnes qu'on n'aurait jamais cru pouvoir voir en France et qui viennent, je pense notamment à Kim Stanley Robinson, qui n'est pas revenu depuis les années 2010-2012 en France, mm-hmm, et qui revient à l'occasion d'une réédition de sa trilogie de Mars, Mars la rouge, la bleue, la verte, qui était un des romans des années 80 d'anticipation écologique notamment.
90, ouais, je dirais.
Ouais, plutôt 90, tu as raison. Donc on retrouve donc ce Kim Stanley Robinson, qui fait suite à l'ambition affichée des Utopiales d'avoir chaque année des auteurs à l'international et surtout des grands auteurs anglo-saxons. On a bien sûr régulièrement Moorcock, Spinrad, ce genre de personnes. On va aussi avoir, et ça faisait, c'est là aussi où on voit que les Utopiales, qui étaient jusqu'à présent assez centrés sur l'Europe et l'anglo-saxon, s'ouvrent à différentes culture science-fictionnienne, on va dire ça comme ça, très beau néologisme, depuis 4-5 ans, en fait 2018, et puis après il y a eu les moments morts du Covid, deux éditions, ils se sont ouverts à la littérature asiatique. Et quand je dis asiatique, c'est plutôt chinois, puisque le deuxième plus grand salon de science-fiction au monde se passe à Chengdu, en Chine. Donc il y avait ce partenariat qui avait été créé, donc il y a toujours une délégation de 4 ou 5 auteurs chinois. On a le spécialiste, j'ai perdu son nom, le spécialiste de la science-fiction française qui était le dirigeant de Sèvres, des rencontres de l'imaginaire de Sèvres, donc j'ai perdu le nom, il était là-bas donc à Chengdu pour discuter et participer notamment à une réflexion sur la science-fiction et la différence d'approche entre la science-fiction très européenne, donc française et anglo-saxonne par rapport à la chinoise. Et un cas de figure assez intéressant, c'est qu'en France, fantasy et fantastique sont plutôt des genres qui relèvent d'une majorité d'écrivaines, alors que la science-fiction est d'une majorité d'écrivains. Vous pouvez retrouver ces chiffres-là dans les statistiques de l'Observatoire de l'Imaginaire. En Chine, c'est l'inverse. La science-fiction est majoritairement écrite par les femmes, et le fantastique fantasy est écrit par les hommes. Mmh. Il y a plein de théories qui ont été mises dessus, qui ont été posées, notamment le fait que tout ce qui relève du sacré, du spirituel, soit pratiqué par des hommes, les moines tibétains, etc. Donc tout ce qui relève du fantastique et du folklore soit par les hommes, et que les femmes partent plutôt vers des sciences. Ce n'est qu'une supposition, il n'y a vraiment rien d'étayé là-dessus, mais ça fait partie des discussions qu'il y avait. Et du coup, qu'est-ce qui faisait que la science-fiction n'avait pas les mêmes ambitions, les mêmes codes, notamment le manichéisme qu'on retrouve beaucoup dans la science-fiction française, ou la quête initiatique dans le cadre de l'anticipation ou de tout ce qui va être écologique. Je pense à Jean-Marc Ligny. Chez nos amis chinois et asiatiques, c'est vraiment pas du tout la même chose, où l'individuel se fasse par rapport au collectif. Il n'y a pas vraiment de personnage principal. C'est la collectivité qui s'en sort.
D'accord.
C'est des choses qui sont intéressantes. L'année dernière, il y avait Rivage, la maison d'édition Rivage, notamment connue pour Rivage Noir, le polar, qui faisait son entrée sur la scène des littératures de l'imaginaire avec une collection de science-fiction et qui ouvrait avec son premier roman tiré d'un auteur chinois.
D'accord.
Donc là, la boucle est bouclée, on revient, et sur les 5 auteurs asiatiques qui sont invités, je crois qu'il y a 3 femmes. Donc on reste quand même sur quelque chose qui est assez révélateur. À côté de ça, la personne qu'on va essayer d'avoir en interview, et c'est là le démarrage qu'il y a de la part des Utopiales, c'est Marina Henriquez, avec l'ouverture sur tout l'imaginaire qu'il pourrait y avoir Amérique latine et puis Amérique du Sud et Espagne, qui pareil ont une autre façon d'envisager les rapports sociaux. Effectivement, on est plutôt habitué à lire ou à voir de l'anglo-saxon ou du français. Et effectivement, ce sont des codes qui sont un peu différents, même si, du fait des héritages passés communs, on s'y retrouve plus qu'avec de la littérature russe ou chinoise, coréenne, etc. Donc, ce sont des choses qui vont être très intéressantes. Tous ces auteurs-là se retrouveront en table ronde, traduction en simultané, en audio, et langage des signes pour si jamais il y a besoin. Les tables rondes sont toujours filmées et trouvables sur YouTube. Et puis nous, on a, comme chaque année, demandé 6 interviews et on reviendra avec 10 de plus en off, parce que c'est les copains. On y retrouvera Xavier Dolo, sous son nom de plume Thomas Géa, mais surtout éditeur chez Argile, qui édite, là c'est bon, ils ont annoncé les grands titres de 2024, ils finissent 2023 avec un Florian Soulas extraordinaire. Ils vont commencer 2024 avec un Edley Aurier et un Del Socorro. Il va y avoir des choses assez importantes dans cette maison d'édition. Camille Le Boulanger, qu'on avait retrouvé en table ronde donc le 6 octobre sur le militantisme dans la littérature de l'imaginaire, viendra pour parler aussi d'Utopia et donc de son fantastique anarchiste, très intéressant. On va y retrouver pas mal d'amis, forcément des gens qu'on connaît un peu moins, qu'on a eu en table ronde et avec qui on a envie de resserrer un peu les liens, et d'autres qui sont des amis antidéluviens qui sont passés certaines fois sur l'imaginaire.
Et puis beaucoup de films, des rétrospectives et puis des films en avant-première, en compétition.
Ça, je suis très content que tu abordes le sujet, parce que c'est vraiment un domaine que je n'ai pas le temps de faire et que chaque fois, c'est toi qui t'en occupes. Mais effectivement,
je n'y serai pas cette année.
C'est toujours le principe de... J'ai pas regardé de qui était composé le jury, parce qu'il y a toujours un membre du jury extraordinaire pour les Utopiales, mais les Utopiales ont un partenariat avec UGC et avec Pathé, ce qui leur permet d'avoir une salle de projection directement dans le centre des congrès, et je crois que c'est une trentaine de films qui sont diffusés sur les 5 jours et des courts-métrages en plus de ça.
Merci.
Donc il y a un prix court-métrage, un prix long-métrage, un prix du public, un prix canadien, plus je crois qu'il y a 4 prix liés à la cinématographie sur le temps des Utopias.
Et le jeu de rôle aussi, chapeauté par Ludinante pendant 4 jours, je pense qu'on peut jouer.
Une autre catégorie, puisque quand on a commencé, je vous disais ça il y a 5-10 ans, en fait il y avait tout un étage qui était réservé, l'étage intermédiaire entre les salles de cinéma et puis là où il y avait toutes les conférences, il y avait tout un étage qui était réservé aux jeux de rôle et jeux de société. Là, ça a vraiment pris des mesures, des dimensions extraordinaires, où on a un étage uniquement pour le jeu de rôle et d'autres parties de la salle pour les jeux de société, puisque les créateurs viennent. Je vous disais qu'il y avait un prix sur le scénario du jeu de rôle. Il y a aussi comme tu le disais, des créateurs de jeux de société qui présentent leurs nouveautés, auteurs ou alors magasins, entités, maisons d'édition. Hein, c'est une sorte de festival de Cannes bis qui viennent pour présenter des jeux de société. Toujours le jeu de rôle en inscription libre et gratuite sur le jour même ou en avance sur le site. Et puis vous venez, vous discutez, vous pouvez essayer. Il y a une ludothèque qui est présente, donc on peut tester les jeux de société avec ou sans leurs créateurs. Et puis il y a forcément le magasin de jeux de société.
Il y a un espace enfant aussi depuis quelques années.
Tout à fait. Alors cette année, il y a
un festival Kids Friendly, on va dire.
Avant, il y avait un espace enfant qui était une garderie. On va dire ça assez basique. Ça a été une garderie. Espace jeu,
c'est pratique,
espace aussi. Découverte et espace. Bibliothèque, vous arrivez, vous déposez le bambin pendant 1 à 2 heures, vous faisiez votre petit tour et puis vous revenez. Et là, alors, il y a donc toujours cette possibilité-là, mais surtout, il y a une salle de repos. Soit pour quelqu'un qui en a marre du bruit, on parle quand même de 90 ouais. à 100 000 visiteurs sur l'ensemble de la manifestation, donc c'est assez énorme. Le brouhaha est constant, il peut y avoir des personnes. On voit des personnes se balader avec les casques anti-bruit pour éviter donc tout ce brouhaha-là. Il y a donc des salles qui vont être mises à disposition, qui sont des salles de tranquillité, ouvertes à tous, mais en nombre limité, et le but étant d'y aller, comme dans des bibliothèques universitaires, avec quelqu'un qui fera un chut, à chaque fois quelqu'un parlera trop fort. Le but étant de pouvoir profiter pleinement et sans bruit parasite ou sans mauvaise expérience de ce moment-là. On rappelle que c'est le plus gros salon dédié à la littérature de l'imaginaire en France.
Eh ben merci Pierre-Marie, bon festival. Donc on rappelle, ça commence demain 1er novembre.
Alors c'est oui.
Jusqu'à dimanche le 5.
Tout à fait.
À la Cité des Congrès de Nantes.
Donc le 1 à 18h jusqu'au 5 à 18h aussi.
Avec aussi quelques animations déportées, il y a une soirée musicale.
Il y a le lu, il y en a un peu partout. Au bout d'un moment, ça, tout le monde apprécie, tout le monde en demande plus. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas pousser les murs, donc on va voir ailleurs. Et c'est pas mal d'espaces culturels de la ville de Nantes qui sont mis en contribution.
Eh bien merci Pierre-Marie.
Merci à vous.
J'ai la chance pour cette table ronde d'être accompagné par, dans l'ordre alphabétique,
Céline Crigu, doctorante en littérature avec une thèse sur le thème du mal, MAL. À ses côtés, Claire Garand, autrice de science-fiction, et notamment de son livre Païdéa, qui a reçu le prix Verlanger et qui le recevra physiquement le 1er novembre prochain. Et puis Audrey Plenet, pour sa novella Rossignol et son prix Utopial, pareil qu'elle recevra à l'occasion des Utopiales le 1er novembre. De mon côté, je suis le président de l'association Imaginaire, en partenariat avec l'Université d'Angers. L'association Imaginaire organise un salon littéraire dédié aux littératures de l'imaginaire une fois par an. Donc c'est dans ce cadre-là que nous proposons une table ronde thématique liée à l'imaginaire. On va parler du corps, comme vous avez pu le voir, et on va s'arrêter au corps dans sa définition qu'on pourrait trouver par exemple dans le Larousse, c'est-à-dire la substance matérielle d'un être animé, considéré en particulier d'un point de vue de son anatomie. On s'arrêtera uniquement à la définition de l'anatomie physique du corps et pas tout ce qui pourrait être le corps d'une société ou d'une entité sociale. C'est pour ces raisons qu'on se retrouve donc avec des autrices de SF extrêmement douées dans l'écriture de futur et surtout de l'altérité, et puis donc d'une doctorante qui a écrit énormément sur le corps et ses différences. Et d'ailleurs, la première question, l'entrée en matière est pour toi. Parce que qu'est-ce que le corps nous dit à la fois sur les êtres de fiction et sur les êtres, l'humanité? Et est-ce que la différence de morphologie est un indicateur d'une moralité différente?
Déjà, merci au public d'être venu nous écouter, parler sur les sujets qui nous passionnent. Donc moi, je travaille plus spécifiquement pour ma thèse sur le vampire, spécifiquement masculin, puisque le vampire féminin, évidemment, ouvre sur des considérations qui sont tout autres et qui sont d'une richesse qui ne tenait pas dans ma thèse en termes de place et de temps. Et évidemment, le corps du vampire est au cœur de ce qui le rend si problématique, puisque... Alors, je vais essayer de ne pas développer pendant trois quarts d'heure sur le sujet, mais le vampire est apparu dans la culture puis dans la littérature comme ce qui échappe à la science quand on définit le corps. C'est-à-dire que le vampire apparaît à l'âge des Lumières sous la forme de cas vampirique, qui était avéré à l'époque, entre guillemets, comme un irrésolu du corps. Donc, en fait, il a toujours eu ce corps anormal. Il a évolué ensuite, on en parlait tout à l'heure, il est devenu sexy, il est devenu séduisant. Ce côté anormal est passé un petit peu, a été mis sur le côté, mais il reste toujours présent en fait. Il est toujours en fond de la figure. Donc moi, c'est vraiment ce sur quoi je travaille. Le vampire, en fait, évidemment, interroge aussi nos représentations du corps normal, entre guillemets, du corps anormal, entre guillemets. Et il se fait comme ça le porteur aussi des discours divers, des idéologies diverses qui le voient évoluer et circuler dans la culture.
Le mythe du vampire, comme tu le définis, c'est quelque chose qui est très ancien. Ouais. Est-ce que vous, dans les SF, dans toutes vos lectures que vous avez pu avoir, est-ce que le mythe du vampire existe encore ou est-ce qu'on a dépassé ce stade-là?
Alors, il y a des exemples de vampires en SF, même si c'est tourné avec plutôt une évolution de la science qui aurait amené en fait cette figure vampirique avec ce qu'on peut retrouver d'immortalité, de besoin de boire du sang, voilà, le classique. Ou même, on peut expliquer aussi le fait qu'il y ait une aversion au rayon du soleil, etc. Mais il y a une explication scientifique. Comme ça, je pense à deux exemples. Il y a un vampire dans Vision aveugle de Peter Watts, qui est très lointain. Il est un personnage dans le livre, mais qui est basé sur ça. C'est une mutation génétique, en fait, qui amène ce caractère vampirique. Et si je peux sortir de la littérature de roman, il y a un vampire dans le manga Gun, que vous avez évidemment tous, absolument tous lu, et il le faut, et sinon c'est... Alors c'est dans Last Order, que vous faut lire après avoir lu tous les premiers. Et moi j'adore parce que on a également cette idée qu'il y a eu une mutation en fait d'un gène V, donc de mutation de génétique qui a amené à des traits vampiriques, qui réexplique a posteriori le passé, c'est-à-dire c'est une mutation qui existe depuis longtemps, qui est apparue dans les siècles passés de l'humanité, mais qui ne pouvait pas vivre en plein jour parce que aversion au rayon du soleil, et il y a une extinction de masse avec des nuages qui couvrent les rayons du soleil et qui permettent en fait à ces êtres de reprendre, enfin de pouvoir de nouveau se balader sur Terre et boulotter tout ce qu'ils trouvent de survivants humains. Voilà, c'est pas un spoil de Gunn que vous allez lire, je vais pas vous spoiler, mais c'est un arc narratif très annexe. Voilà, donc il y en a, mais ils gardent la même caractéristique du vampire très classe, très noble, très immortel, très sage quelque part, qui a cette sagesse de l'humanité, parce qu'il vit l'humanité depuis des siècles et même des millénaires. Donc il porte une certaine noblesse, et j'ai l'impression que c'est un peu le fantasme de la noblesse incarnée sur certains personnages de vampires, et ça reste le cas en SF en fait.
Alors moi je ne suis pas du tout spécialiste du vampire en SF. Ce que m'évoque le vampire, c'est la nouvelle d'Alexis Tolstoï de 19e, hein, La nuit du Vourdalak. La famille du Vourdalak, merci. Et en fait, moi, ce qui m'avait intéressé dans cette nouvelle, c'était justement qu'il n'y avait aucune élégance, aucune classe. On est sur les revenants qui viennent. Alors, tu parlais de boulotter tout ce qu'il y avait de vivant. Eh bien, c'est vraiment de la possession, d'une certaine manière. Les revenants, c'était le revenant de base. Et si on part de quelque chose d'aussi primitif, parce que c'est quand même très primitif, hein, c'est le mort qui revient et qui prend la vie de sa famille, hein, la famille meurt finalement. Là, effectivement, on peut commencer à trouver d'autres types de vampires en science-fiction, c'est-à-dire des ça va être beaucoup plus scientifique, ça c'est sûr. Ça peut être parce que dans la famille du Vourdalak, dans mon souvenir, ça fait un certain temps que je l'ai pas lu, il prend la force vitale des personnes de sa famille, mais on peut trouver beaucoup de cas dans la science-fiction où ça n'est pas tant la force vitale qui est prise que le corps lui-même, par exemple, où ça peut être une forme de, là je pense à un roman dans lequel, évidemment j'ai oublié le titre, c'est merveilleux, mais j'avais trouvé l'idée très intéressante. L'auteur utilisait le concept de Dibouk, qui est un concept juif. Le Dibouk, c'est un revenant, justement. Et dans ce roman, les personnages étaient susceptibles de se faire une transplantation de persona. C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, Audrey, je vais pas prendre ton exemple, mais tu te fais cloner ton esprit et je me fais transplanter ton esprit. Ça veut pas dire que tu remplaces le mien, mais nous sommes deux dans mon corps désormais. Et le D-book intervient quand le deuxième esprit, le tien, prend possession de l'intégralité de la personnalité. Et c'est une forme vampirique. Plus ou moins, mais alors ce serait super bien si je me souvenais du titre. Donc voilà, mais c'était quelque chose de purement technologique, ce système. Donc voilà, je suis navrée, ma contribution est un peu réduite, je lui ai coupé les ailes.
Je vais juste revenir sur le vampire élégant, parce qu'en fait, la nouvelle de Tolstoï, elle est basée justement sur les premiers cas, entre guillemets, vampiriques. Donc, le vampire est apparu en Europe de l'Est, en Europe centrale, dans les années, pour la première fois, c'était 1670 et quelques, et ensuite 1732, avec des épidémies de gens qui sortaient de leurs tombeaux, qui étaient gonflés de sang, on ouvrait les cercueils, ils étaient encore vivants, trois semaines après, etc., etc. Donc évidemment, on l'explique aujourd'hui de la manière scientifique, mais c'était des vampires des milieux populaires, en fait, et qui venaient effectivement attaquer, la légende voulait qu'ils viennent attaquer les membres de la famille. Le vampire noble, il arrive avec les romantiques anglais, avec le roman de John Polidori en 1819, qui a été très fortement inspiré du poète Lord Byron, que certains d'entre vous connaissent évidemment. Et là, on a un vampire qui effectivement devient mondain, devient élégant, devient très subtil. Mais le vampire, à la base, c'est juste une espèce de sangsue qui prend l'apparence ou qui prend le corps, ça dépend aussi des cas. Et du coup, on a vraiment deux acceptions différentes de ça. En fait, plus il va être individualisé dans la fiction, plus il va avoir une identité, plus il va être séduisant. Plus il va être représenté sous la forme de multitude et plus il va être horrifiant. À part Nosferatu de Murnau, mais
J'allais citer Nosferatu, qui était le premier vampire que j'avais vu au cinéma. Et c'est assez horrifique, en fait, parce que juste son attitude, toute sa communication non verbale, comment dire aujourd'hui, est quand même assez terrifiant. Très rassuré de découvrir Tom Cruise après. Enfin, je veux dire, ma
ça a fait du bien.
Mais c'est, ce qui est extraordinaire dans le Murnau, c'est qu'on peut toujours le revoir. Il est d'une force. Je l'ai revu il y a peut-être un an et j'étais vraiment surprise. Bon, en même temps, Murnau, bon. Mais quand même, il y en a qui vieillissent un peu mal, mais celui-là, moi, je le trouve toujours aussi poignant. Et c'est juste une parenthèse.
Voilà, on a fait un gros focus sur le vampire. On va se noyer un petit peu, même si on va y revenir plus tard. Dans toutes les créatures fantastiques, mythiques ou anciennes qu'on pourrait avoir, on pourrait citer par exemple le loup-garou, les zombies, etc. On reste un peu dans l'horrifique. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas cette notion où, tu le citais avec Peter Watts, tout ce qui n'est pas humanoïde est foncièrement méchant? Est-ce que ce n'est pas un indicateur de facilité, en fait? Dans les romans anciens, puisque tu parles du mal, est-ce qu'ils sont tous abhumains? Ou est-ce que l'humanité a sa part de méchanceté?
Alors, le vampire, il est intéressant justement parce qu'il est toujours à l'entre-deux entre humanité et non-humanité. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de vampires. Bon, parfois, ils se métamorphosent. On a tous cette image de la chauve-souris, etc. On parlait du film de Coppola où il prend 12 000 apparences et ça n'a plus aucun sens parce qu'on ne sait jamais à quoi il va ressembler. Donc en fait, à force d'être monstrueux, il en perd sa monstruosité. Quoi. C'est un peu... voilà. Mais en fait, il est toujours, et c'est pour ça que le film de Murnau est aussi frappant, il est toujours à la croisée de l'humain et du non-humain. Il est toujours à cet entre-deux-là, comme si il était quelque chose qui restait vraiment infigurable, qui restait, je sais pas, alors, on peut l'analyser de plein de manières différentes, ça a été fait, c'est la part d'animalité qui reste en nous, il y a une lecture que moi je trouve super intéressante qui revient aux représentations du diable à l'époque de avant la Renaissance, où on avait un diable composite, c'est-à-dire que le diable était représenté sous la forme, une espèce d'assemblage de différents animaux, vous aviez des parties de chauve-souris, vous aviez des parties de loup, des parties de serpent, etc. Et ça représentait, en fait, il incarnait le chaos qui était mis au centre, qui était mis comme danger à la création divine. La création divine, c'était l'harmonie, et le diable composite venait représenter ce chaos-là. Et le vampire, en fait, reprend ce côté chaotique, et son côté hybride à l'entre-deux vient insérer, en fait, par la représentation, cette notion de chaos. Moi, c'est ce que je trouve absolument fascinant. Et même chez les vampires les plus humanisés, les plus séduisants, on pense à Twilight évidemment, il y a toujours cette part d'étrangeté, il y a toujours cette part de décalage avec l'humain. Donc le vampire est vraiment spécifique pour ça. C'est pas forcément humanisé égale bon, non humanisé égale mauvais. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il navigue vraiment entre les deux. Puis on a des séries comme True Blood par exemple, où on a des vampires qui sont bons, puis on a des humains qui sont mauvais, etc.
C'est intéressant cette question de savoir si ce qui ressemble à l'humain est forcément, enfin, est considéré comme bon. Là, je vais partir dans l'ASF. Des études récentes ont montré, d'autres l'avaient montré auparavant, que, alors je vais utiliser un terme en anglais, moi qui est un anglais pourri, et à côté d'une spécialiste, j'ai un peu honte, le thème de la Uncanny Valley. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, je ne suis pas du tout bilingue, hein. Donc je vais vous expliquer comme je peux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça veut dire que plus un robot, là je suis sur du robot, hein, pas sur du vampire, plus le robot ou l'androïde ressemble à l'humain, plus il répugne à l'humain. Donc, non, mais c'est pour ça que on est à la fois dans ce qui est très humanoïde, parce que voilà, c'est quand même... Et en fait, et trop d'humanité, c'est chelou. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect de... ce qui n'est pas... Il y a un autre élément qui fait qu'on va discerner ce qui est humain de ce qui ne l'est pas, autre que ce qui est humanoïde, donc l'apparence de la chose. Par ailleurs, je repense à un roman dont nous avons parlé tout à l'heure, Les Amants étrangers de Philippe José Farmer, que je vous invite à lire, je suis très fière d'avoir, de me souvenir du titre. Donc, dans ce roman... Les amants étrangers, en plus quand on voit la couverture, on a l'impression que c'est une romance. C'est pas tout à fait une romance, mais il y a une histoire d'amour, mais il y a surtout une histoire entre un être humain et un être non humain qui a tout d'un être humain, physiquement. Et justement là on est dans est-ce que ce personnage très humain est bon, ou est-ce qu'au contraire ça n'est pas un être inquiétant. finalement, je me dis qu'il y a un petit lien avec le vampire. Pourquoi ? Le personnage, le personnage humain est l'homme. Le personnage féminin est donc la femme, en l'occurrence. Et elles sont appelées, sur la planète où se déroule l'histoire, des Lalita. Déjà, vous entendez Lilith dans Lalita. Et ce sont des femmes qui sont immortelles. Donc, il y a un côté, finalement, assez vampirique. Et elles utilisent les hommes parce qu'elles sont magnifiques. Et elles utilisent les hommes pour en faire ce qu'elles veulent. Mais on est quand même dans de la science-fiction parce que finalement, y a plusieurs aspects qui viennent en ligne de compte. Mais tout ça pour dire que ce qui est humanoïde n'est pas forcément ce qui va rassurer l'humain et ce qui va incarner le bon. Et à l'opposé, si on prend quelque chose qui est considéré comme très laid, comme Cthulhu, je pense que c'est assez rare qu'on se dise que Cthulhu est beau. Hein. C'est pas un parangon de beauté. Alors c'est pas tout à fait de la SF, mais Cthulhu est laid et incarne, on le sait, Lovecraft était d'un racisme très 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 prononcé, incarne l'altérité. En tant que tel, alors là je spoile pas, hein, je crois que tout le monde est au courant, c'est vraiment l'incarnation de l'altérité, l'incarnation de l'autre dans tout ce qu'il peut avoir d'effrayant. Et pourtant, il n'y a pas que Cthulhu dans l'œuvre de Lovecraft, dans l'abîme du temps, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est vraiment un méga classique, dans l'abîme du temps, le personnage qui est un homme s'incarne temporairement dans une créature qui n'a absolument rien d'humain. Bon, ce qu'il y a d'affreux dans l'abîme du temps, c'est pas la créature, c'est plutôt le fait d'avoir des éons et des éons qui se sont déroulés, enfin bon bref. Mais on a un personnage qui reste humain en dehors de son corps. Et ça, c'est aussi une question, je pense, qui sera intéressante, c'est de savoir si on reste humain quand on quitte son corps et qu'on intègre un corps qui n'est pas celui d'un humain. Mais bref, donc pour répondre... Non mais si, c'est vraiment une question, je pense que toi, tu es très... Parce qu'il faut... Dans le roman d'Audrey, il y a plein d'hybrides. J'essaie de ne pas trop spoiler. Hein. Mais voilà. Donc, ce qui est proche de l'humain n'est pas forcément rassurant. Et ce qui est éloigné de l'humain, eh ben, peut-être que finalement... Parce que là, dans l'abîme du temps, c'est des espèces de trucs iconiques avec des têtes à tentacules, machin. Enfin, c'est pas très humain. Eh ben, c'est peut-être pas si loin de l'humain que ça. Voilà.
Avoir écouté Furfur avec Hunted by the Fangs of Fate, on termine avec Vampiric Solitude, The Blood is the Life. On se donne rendez-vous dans deux semaines, même heure, même fréquence.